Alors, on est en janvier, je pense que tout le monde le sait, bien sûr, qui est une période, on le dit souvent, hein, pleine de résolutions, pleine de décisions pour tel ou tel projet, ou encore sur telle ou telle voie à suivre. Et bien, ce matin, je souhaiterais justement m'arrêter avec vous sur deux versets de la parole de Dieu, dans l'optique, justement, de vous inviter à réfléchir avec moi, ou à re-réfléchir, à un choix qui est en réalité le choix le plus important de notre vie et de votre vie. Alors ces deux versets, vous pouvez les trouver dans Matthieu au chapitre 7, pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez l'ouvrir avec moi. Matthieu chapitre 7. Versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Entrez, dit Jésus, où, je pense que tout le monde l'a compris, dans le royaume de Dieu. Mais derrière cet impératif, nous sont présentées donc deux portes, deux chemins. Une porte large avec un chemin spacieux et une porte étroite avec un chemin resserré. Cette image de chemin, on peut la retrouver déjà dans l'Ancien Testament. Si vous prenez dans Jérémie chapitre 1 verset 8 que je vais lire, ce verset nous dit « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Le psaume 1 que j'ai lu tout à l'heure aussi nous parle également de la voie des justes et de la voie des pécheurs. Et c'est cette image, cette même image, qui est donc utilisée par Jésus lui-même dans son enseignement. Une image donc qui met en opposition la vie et la mort. Ces paroles de Jésus sont des paroles graves. Des paroles auxquelles bien souvent les gens n'aiment pas trop penser, préfèrent se distraire, penser à autre chose, et cela même dans les églises. Pour de nombreux croyants, l'enfer est devenu un mot tabou, rarement prononcé. Un sujet rarement abordé. Nous avons du mal ou ne voulons pas croire que quiconque puisse mériter une punition éternelle, tout simplement parce que si c'est le cas pour les autres, c'est aussi le cas pour nous. Jésus est venu sur la terre et a manifesté son amour. Il a fait des miracles, des guérisons, encore plein d'autres choses merveilleuses. Mais Jésus est venu surtout sur la terre pour parler aux hommes des réalités célestes. Jésus n'est pas venu simplement pour nous apprendre à être plus heureux. Il est venu pour nous faire connaître comment sauver notre âme. Et est venu pour être ce sauveur dont nous avons besoin. Dieu nous aime assez pour nous dire la vérité. Il y a deux destinations pour passer l'éternité et pas une seule. Et il nous faut emprunter le bon chemin si nous souhaitons nous rendre au royaume des cieux. Car tous les chemins n'y mènent pas. Tout le monde emprunte une de ces voies, celle de la perdition ou celle de la vie, celle qui mène vers le chemin du ciel ou le chemin de l'enfer. Et il n'y a pas de choix intermédiaire, il n'y a pas de voie médiane, de voie au milieu. Notre existence dépend de ce choix, et c'est ce que Jésus veut rappeler et faire comprendre avec ces versets. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement? Que représentent ces portes, ces chemins? Combien sont réellement ceux qui sont beaucoup et ceux qui sont peu? Eh bien, c'est ce que je vous propose de revoir ensemble, frères et sœurs, ce matin. Alors, relisons le verset 13 qui nous décrit le chemin vers la perdition. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Large, spacieux. Voici deux mots dans ce verset, deux adjectifs importants qui permettent de comprendre pourquoi cette voie mène à la perdition. Une porte large, car par elle passent toutes les voies, sauf une, celle que nous verrons juste après. Mais toutes les autres voies empruntées dans ce monde passent par cette porte. Que vous soyez sans religion, athée, que vous suiviez telle ou telle fausse religion, que vous ayez des convictions ou que vous n'en ayez pas, Que vous cherchiez à faire le bien moralement ou faire le mal, toutes ces voies passent par cette porte. Une porte large où il n'y a aucun contrôle demandé ou fait sur notre vie et sur notre cœur. On peut la passer gonflée d'orgueil, avec une bonne conscience ou de l'indifférence. On peut y entrer avec toutes ses convoitises, aucun contrôle sur celle-ci ou sur nos passions. Tellement large qu'il est possible de la passer même à plusieurs, en groupe, sans se poser de questions, simplement en suivant, en étant inconscient peut-être même de la direction prise. Une porte large donc qui donne accès aussi à un chemin spacieux. Spacieux car il est facile. La traduction « parole de vie » nous dit, mais il utilise ce mot justement en disant « en effet la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile ». Dans ce monde, suivre le péché, obéir au péché, ne signifie pas forcément souffrir, être malheureux. On peut marcher dans le péché et sembler avoir même une vie facile. Certains peuvent avoir de la réussite, du succès, de l'argent, prendre du plaisir, en tout cas pour l'instant et sur cette terre. Vivre, comme je le disais juste avant, en suivant sans réfléchir, ou sans vouloir réfléchir aux conséquences, c'est facile aussi, ça simplifie les choses. Beaucoup ne veulent plus s'embêter, ne veulent plus réfléchir justement. Il faut que tout soit simple, comme chacun le veut. Il faut que tout soit donc toujours plus facile. Un chemin spacieux, facile, car tout comme pour la porte large, on peut y marcher avec ses convoitises, avec ses péchés. On peut prendre tous les bagages que l'on veut sur ce chemin. On n'a rien à abandonner. Vous connaissez, je pense, ce passage dans Matthieu au chapitre 16 où on voit Jésus qui discute avec un jeune homme riche. Et dans celle-ci, Jésus répondit à cet homme qui lui avait demandé ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. « Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus lui a demandé de tout abandonner pour le suivre, pour rentrer dans le royaume des cieux. Au verset 22, nous voyons ce jeune homme repartir tout triste. Parce que c'est difficile de tout abandonner. Sur le chemin large, pas besoin. Vous pouvez tout garder. Et cela plaît, cette facilité de la porte, du chemin, ça attire. Le texte nous dit beaucoup entre par là. Quand on voit du monde, on se dit souvent que c'est la bonne voie, la voie à suivre, qu'il faut y aller. C'est rassurant. C'est peut-être un gage de sécurité, justement. Dans Exode, au chapitre 23, on peut lire « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Le nombre ne devrait pas être un critère pour déterminer le bon chemin. Nombreux sont ceux qui entrent par là, car en réalité, il n'y a rien à faire pour y entrer. Une porte large, visible de suite sans effort, facile d'accès. Pourquoi ne pas y aller, donc pourquoi ne pas y entrer ? Mais nombreux sont ceux qui y entrent tout simplement car par défaut, les hommes n'ont même pas à choisir cette voie. Celle-ci est la voie, effectivement, automatique. Tous les hommes sont sur ce chemin en lien à leur lignée avec Adam. Et cette voie est la voie de l'humanité déchue. Dès la naissance, notre pilotage automatique, pourrait-on dire, le péché qui est en nous, nous conduit tout droit par cette porte large, sur ce chemin large, vers la perdition. Le péché nous prive d'une relation avec Dieu. Ésaïe au chapitre 59, verset 2, nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Et nous sommes pécheurs et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas prétendre à entrer dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas la direction automatique et personne donc ne s'y rend automatiquement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains au chapitre 3. Ce chemin mène à la perdition. Pas une perdition temporelle, juste terrestre, qui durerait seulement un temps. Mais c'est bien une ruine éternelle. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous pouvez le trouver dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Une erreur fréquente qui existe quand on parle de Dieu à quelqu'un, c'est que cette personne pense que c'est parce qu'elle ne croit pas qu'elle serait perdue. Mais ce n'est pas cela. Une personne n'est pas perdue parce qu'elle ne croit pas, elle est en réalité perdue. Le fait de ne pas croire n'est pas la cause de sa perdition. Elle est déjà perdue, et nous sommes déjà perdus dès le départ parce que nous sommes pécheurs. Et le salaire que mérite notre péché, c'est la mort. Donc à moins que notre problème de péché ne soit résolu, le seul endroit où nous pourrons nous diriger, notre véritable destination, c'est l'enfer, et cela devrait nous effrayer. La destination finale de la voie que nous suivons par défaut, par nature, mène à la destruction. Alors sachant cela, je vous invite à relire et écouter le verset suivant, le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Cette seconde voie qui nous est présentée désormais passe par une porte étroite, avec un chemin resserré derrière. Cette porte qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus est la seule porte d'accès à la vie éternelle, la seule porte vers le royaume des cieux. Lui-même en a témoigné en disant « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis ». Ou encore au début du verset 9 aussi de ce même chapitre, donc de l'évangile de Jean, au chapitre 10, il a pu dire aussi « je suis la porte ». Il n'existe aucune autre porte qui peut mener vers le royaume de Dieu. Pas besoin d'en chercher une autre, vous n'en trouverez pas. Jésus est l'unique porte par laquelle passer pour trouver la vie. Christ qui s'est offert pour nous, pour être cette porte pour nous. Christ qu'il nous faut recevoir, lui qui a tout accompli pour nous. Par Christ, par cette porte, les hommes entrent dans la faveur et la miséricorde de Dieu. Trouvent le pardon par la foi en son sang et vivent dans l'espérance de la vie éternelle. Ce que Jésus a dit lui-même dans la suite, qu'on peut lire dans la suite du verset 9 du chapitre 10, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé », c'est-à-dire héritera de la vie éternelle. Sauvé, car nous avons vu à ce moment-là notre péché. Nous l'avons compris, nous l'avons confessé. Confessé aussi qu'il nous était impossible de nous sauver par nous-mêmes. Nous sommes venus à lui avec un cœur repentant. Nous avons accepté sa miséricorde, sa grâce infinie. Accepté Christ, mort pour nous et ressuscité. En rentrant par cette porte étroite, nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais pour ceux qui le rejettent, qui ne veulent pas de ce salut offert, alors nous l'avons vu précédemment, leur destination ne sera pas le royaume de Dieu, ne sera pas la vie, mais la mort. Mais si cette porte représente Christ, pourquoi alors la qualifier d'étroite ? L'étroitesse de cette porte ne doit pas être comprise au premier degré, d'un point de vue physique, c'est pas comme on pourrait visualiser peut-être un petit guichet pour rentrer. Non, l'étroitesse de cette porte, c'est autre chose. La porte, c'est l'image du choix, de l'engagement délibéré, avant le chemin. La porte, c'est la réponse intime et partagée, secrète et publique, à un appel qui met en jeu notre existence. Et la porte vers la vie est étroite, premièrement, parce qu'on ne peut y passer qu'un par un. Chacun doit prendre cette décision, faire ce choix, pour lui-même. Il n'est pas possible de rentrer en groupe, masqué ou caché dans la masse. Chacun est responsable pour lui-même. La foi est un choix personnel, et cette porte étroite en est le symbole. Le second point à comprendre avec ce qualificatif étroit, c'est que même en voulant y passer seul, nous ne pourrons pas entrer si nous ne nous abaissons pas. Trouver cette porte étroite et y entrer exige un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dans Jean au chapitre 3, on peut lire, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, Jésus dit également, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons nous débarrasser du vieil homme qui est en nous. Nous devons être prêts à tout abandonner pour Christ. Et cela n'est pas facile. Dans l'évangile de Luc, on peut trouver aussi un verset très proche de celui que j'ai lu ce matin au chapitre 13, verset 24, et qui nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Dans un commentaire que j'ai pu lire, il était précisé que le terme grec employé dans ce passage, dans l'évangile de Luc, était le terme qui a même donné le mot « agoniser » en français. Un terme qui montre bien que ceux qui veulent entrer par la porte étroite doivent lutter pour y parvenir. Lutter non pour tenter de se sauver par nos propres efforts, car nous ne sommes sauvés que par la grâce de Dieu et par le don de la foi, ce qui nous est rappelé dans la lettre aux Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, nul ne peut parvenir au ciel par ses propres efforts. Mais nous devons lutter parce que notre orgueil humain, notre tendance naturelle à pécher, ainsi que Satan et le monde s'opposent à notre entrée par cette porte. L'exhortation à nous efforcer d'entrer est un appel à la repentance et au renoncement. Passer par cette porte étroite, c'est choisir de répondre à l'appel de Jésus, c'est décider d'abandonner nos prétentions, nos illusions, c'est choisir de renoncer à soi-même, voire de se renier soi-même. C'est renoncer de compter sur ses propres forces, renoncer à son orgueil, c'est accepter de se débarrasser du monde. Passer par cette porte étroite, c'est choisir Christ et c'est choisir la vie. Jésus nous a dit, donc on l'a chanté ce matin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ne pensons pas que tout est fini une fois entré par la porte. Alors oui, notre salut est acquis, mais la porte n'est pas encore l'arrivée. L'entrée par la porte n'est que le début du chemin. Certains comprennent, en lisant les versets de ce matin, que c'est parce que nous marchons sur cette voie que nous avons la vie éternelle, ce qui sous-entendrait en réalité que, encore une fois, la vie éternelle se gagnerait par nos œuvres. Mais nous pouvons en réalité marcher sur cette voie parce que nous avons obtenu la vie éternelle par grâce, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je vais citer un pasteur britannique qui s'appelle Martin Lloyd-Jones qui a dit « Je ne me sauve pas moi-même en entrant par la porte étroite, mais en le faisant, je déclare le fait que je suis sauvé. Seul l'homme qui est sauvé entre par la porte étroite et seules les personnes sauvées sont sur le chemin resserré. Sinon, ils ne s'y trouveraient pas. » Une fois la porte franchie, cela nous amène sur un chemin donc dans lequel nous commençons une vie de foi, une vie de piété. Un chemin resserré. Je vais reprendre la traduction parole de vie qui dit que le chemin pour y aller est difficile, en opposition avec le terme facile de tout à l'heure. Alors peut-être que cela peut surprendre, et qu'on pourrait s'attendre d'ailleurs peut-être à une voie facile, une fois entré par cette porte étroite qu'est Jésus-Christ. Mais si nous prenons ne serait-ce que l'exemple du peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, qu'il a franchi la mer Rouge, s'est-il retrouvé de suite au pays promis? Non. Il a eu besoin de traverser un désert, et une traversée qui a pris du temps. Et il en est de même pour nous. Une fois passé par la porte, nous devons parcourir un chemin resserré, étroit, un chemin qui n'est autre qu'un chemin de sanctification constante, devant nous amener toujours plus à ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. Un chemin resserré dans le sens où tout est fait pour lui et en lui, lui étant Christ. Galates au chapitre 2 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pour accéder à ce chemin, la porte étroite nécessitait de tout abandonner à Christ. Mais sur ce chemin, notre moi doit continuer à être abandonné, notre corps doit être contrôlé, nos diverses corruptions doivent être mortifiées. Nous devons résister aux diverses tentations quotidiennes, veiller en toutes circonstances, marcher avec précaution, accomplir des devoirs qui sont bien souvent contre l'inclination naturelle de notre cœur. Acte 2, au chapitre 14, nous dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Un chemin difficile où nous aurons à faire face à beaucoup d'épreuves, et notamment face au monde et à son rejet de Dieu. Mais c'est ce chemin difficile qu'il nous faut emprunter. Et pourquoi? Parce qu'il mène à la vie. Au bout de ce chemin, nous connaîtrons le réconfort dans la faveur de Dieu. La béatitude éternelle qui effacera toutes les difficultés que nous aurons pu rencontrer sur ce chemin. Un commentateur biblique et pasteur du XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'appelle Matthew Henry, a partagé que la porte est étroite et le chemin étroit et ascendant, mais une heure au ciel y remédiera. Je pense même qu'il n'y a même pas besoin d'une heure. Ce chemin est difficile, mes frères et sœurs, suivez-le. Je vais vous lire aussi la suite d'ailleurs de ce commentaire que j'ai pu lire, qui disait aussi « Aucun homme intelligent ne choisirait d'aller à la potence, parce que c'est un chemin doux et agréable pour y arriver. » Ni de refuser l'offre d'un palais et d'un trône parce que c'est un chemin rude et sale pour y arriver. Pourtant, de telles absurdités sont des hommes coupables dans les préoccupations de leur âme. Il est vrai que nous ne pouvons ni entrer ni continuer sans le secours de la grâce divine. Mais il est tout aussi vrai que la grâce est offerte gratuitement et ne manquera pas à ceux qui la recherchent et s'y soumettent. Nous devons rester fermes quant à l'exercice de notre piété. Trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit, si je reprends le verset 2 du psaume 1. Et pour marcher sur ce chemin resserré, Dieu a déjà tout fait pour nous aussi, pour nous y aider. On peut lire dans la deuxième épître de Pierre, verset 1, verset 3 à 10. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, broncher dans le sens de chuter et faillir. Malheureusement, frères et sœurs, certains entrent par la porte étroite, mais le chemin qu'ils suivent ensuite est large, reste large. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il n'y a pas de changement dans la vie de ces personnes, elles continuent à vivre comme avant. Elles disent passer par la porte étroite, voire veulent y passer même sincèrement, mais derrière elles marchent en réalité sur le chemin large. Elles ressemblent au monde, agissent comme le monde, ont les mêmes désirs que le monde, parlent comme le monde. À la rigueur, le dimanche, cela change, mais le reste de la semaine, comme le monde. Jésus est absent de leur vie. Il n'y a pas d'amour pour la parole de Dieu, pas de recherche pour mieux connaître Dieu et sa volonté, pas de cœur peiné par le péché présent dans leur vie. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7, nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le verset 21 aussi, du chapitre 7 de Matthieu que nous sommes en train de lire ce matin, nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si nous sommes réellement en Christ, passés par la porte étroite, notre vie doit refléter les changements qu'il opère en nous, les transformations opérées par son esprit dans notre cœur. Alors certaines personnes pourraient me répondre « Mais tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur » et c'est vrai, elles ont raison. Mais Jésus lui-même a dit, toujours au chapitre 7 de Matthieu, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Quand nous sommes sauvés par Christ, nous sommes une nouvelle création, avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors j'aime bien les illustrations parce que je trouve que ça aide à comprendre, ça aide à retenir. Et dans une prédication que j'ai pu écouter récemment, une des illustrations qui a été prise par le pasteur est celle-ci, c'est il parlait d'une personne qui est arrivée en retard quelque part et justifiait ce retard par un choc avec un camion qui arrivait de face à pleine vitesse. Et donc ça lui avait fait perdre du temps. Alors bien évidemment, cette personne était en train de chercher une excuse, de mentir, parce que pensez-vous qu'elle aurait pu vraiment ressortir indemne de ce choc avec un camion en pleine face, à pleine vitesse, ou voire même est-ce qu'elle aurait pu être là présente à ce moment-là? Je ne pense pas. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si nous sommes réellement entrés par la porte étroite qu'est Christ, la transformation que cela implique doit se voir dans notre vie. Il n'en est pas possible autrement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la preuve de notre foi est une vie parfaite. Mais c'est une vie qui est en train de changer, qui est en train d'être transformée. Et cette transformation qui est progressive, c'est cela qui doit se voir dans notre vie. Les corps que nous portons avec nous, les corruptions qui restent en nous, le péché qui reste en nous, mais dont nous avons été libérés, nous rend difficile la marche. Mais à mesure que l'œuvre de Christ en nous grandira, alors nous deviendrons de plus en plus à son image et de plus en plus saints. Cela ne se fait pas en un jour, mais progressivement, jusqu'au retour de Christ, et avec son aide. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Maintenant, la fin de ce verset 14 nous dit aussi une dernière chose. « La porte étant étroite, le chemin resserré, il y en a peu qui les trouvent. » Dans Luc au chapitre 13, on voit une autre précision. Il est écrit, je vous le dis, « Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Alors il est certain que, si je reprends Luc, il dit que beaucoup chercheront à entrer. Si beaucoup cherchent à entrer, ça veut dire qu'il doit avoir une raison, il doit avoir un motif pour vouloir y entrer. Tout simplement parce que l'homme a besoin du salut, a besoin de cette porte qu'est Jésus, et qui est l'unique porte qui nous permet d'échapper à la colère de Dieu. Et au fond, je pense que tout cœur d'homme le sait, ou doit le ressentir, mais peut-être certains ne veulent pas l'écouter. Et alors, diverses raisons donc amènent à la situation, mais la vérité est là. Peu trouvent cette porte et ce chemin étroit, et beaucoup ne pourront pas entrer. Que ce soit parce que l'orgueil de la vie ne le leur permet pas, parce qu'abandonner leur désir est trop dur, parce qu'ils préfèrent rester insouciants, parce qu'ils sont bien comme ils sont, ne voient pas la nécessité de changer leur vie, leur voie. Eh bien, ces personnes ne pourront pas trouver la porte étroite et marcher sur le chemin qui mène à la vie. Que ce soit encore parce qu'ils veulent reporter l'affaire à demain, pensant qu'ils ont le temps, ou parce qu'ils souhaitent profiter encore un peu de certaines jouissances, ou encore parce qu'ils ont d'autres projets pour l'instant. Eh bien, la conclusion sera la même. Demain, il sera trop tard. Peu sont ceux qui entrent par la porte étroite et qui marchent sur le chemin resserré également, car cela nécessite d'être à contre-courant. Déjà à l'époque de Jésus, alors que les chefs religieux, les anciens, les scribes rejetèrent Jésus et attisèrent une haine envers lui, jusqu'à ce que le peuple juif même réclame la mort de Jésus, les disciples décidèrent, eux, de l'aimer, de le suivre. Ils décidèrent de nager à contre-courant. Et c'est difficile d'aller à l'opposé du nombre, de la foule. C'est difficile de nager à contre-courant. Il faut combattre et vaincre de nombreuses oppositions, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Encore une illustration pour ceux qui veulent vraiment visualiser. Nager à contre-courant, je vous invite à regarder le générique de la série The Chosen. C'est mon fils Théo qui nous l'a fait remarquer. On voit un banc de poissons qui avance et puis un peu à la fois un poisson se retourne, change de couleur. Et voilà, et c'est, je trouve, un beau symbole de ce retournement et de ce sens de nager à contre-courant. On voit bien deux directions opposées. Parce que la voie étroite et la voie large sont bien deux voies complètement opposées. Maintenant, frères et sœurs, réjouissons-nous tout de même ce matin. Car peu ne veut pas dire personne ou très peu de monde. Même si ceux qui entrent par la porte étroite sont assez peu nombreux par rapport à ceux qui sont et resteront sur ce chemin large, des multitudes suivront néanmoins le bon berger. L'apôtre Jean a vu cette multitude dans une vision qu'il raconte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc oui, la porte est étroite. Mais rassurez-vous, cette porte est assez grande pour y faire entrer tous ceux qui aiment vraiment et sincèrement Jésus-Christ. Alors pour conclure ce matin, frères et sœurs, je veux vraiment et sincèrement vous dire que je ne suis pas là devant vous ce matin pour accuser l'un ou l'autre. Je ne suis pas là pour dire « toi, tu es sur le chemin large. Toi, tu n'y es pas. Toi, tu es entré, tu n'es pas entré encore par la porte étroite. » Qui suis-je pour vous juger ? Christ est le seul juge. Mais si j'ai voulu reprendre ces versets avec vous, si j'ai voulu parler de ces deux voies aujourd'hui, c'est pour que nous puissions tous, vous et moi, prendre ce temps d'arrêt pour regarder à notre vie, regarder où nous en sommes. Christ nous aime d'un tel amour qu'il nous a donné ses paroles pour nous avertir du danger. À moins d'abandonner nos vies à Jésus-Christ, et tant que nous ne l'avons pas fait, nous prenons le chemin de la destruction, de l'enfer, de la mort. Jésus veut nous mettre en garde contre ce chemin et nous indiquer le chemin qui mène à la vie. Alors posons-nous cette question. Ai-je trouvé la porte étroite ? Suis-je devant celle-ci ou l'ai-je déjà traversée ? Et n'attendons pas pour voir ce qu'il y a après la mort. Nous pouvons savoir où nous finirons dès aujourd'hui. Voici maintenant le jour du salut. Et si je suis entré ? À quoi ressemble ma vie sur ce chemin derrière la porte étroite ? Me suis-je éloigné de ce chemin qui mène à la vie ? Est-ce que ma vie reflète l'œuvre du Seigneur en moi ? Alors oui, ce matin, ma prière est la suivante. Oui, Seigneur, affermis ceux d'entre nous qui marchent sur la voie étroite. Aide-nous à marcher fidèlement sur ton chemin resserré, par ta grâce, avec la force, la joie, la paix, l'amour que tu nous donnes chaque jour. Aide-moi à ne pas croire que je suis déjà arrivé, mais à continuer à te chercher chaque jour. Et Seigneur, oui, retire ceux aussi qui sont encore sur la voie de la perdition, afin de les conduire sur le sentier de la vie éternelle. Amen.